Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Voix au chapitre. Evelyne Jobin.
Bonjour, bienvenue dans Voix au chapitre. Je vous propose aujourd'hui des extraits de la suite de « Celle que vous croyez » de Camille Laurence, édité chez Gallimard en 2016. Nous nous sommes très vite installés ensemble, ou plutôt, il est venu aussitôt habiter chez moi. Il n'avait pas de quoi payer un loyer parisien, et moi j'avais de la place, surtout quand les enfants n'étaient pas là. Quand nous étions seuls, nous restions de longs moments couchés à écouter de la musique ou à lire. Ou bien nous nous lancions dans des recettes de cuisine compliquées pour finir au bistrot du coin. Nous nous entendions jusque dans les silences et le rire venait à bout de tous les différends. La question de l'argent avait été tout de suite évoquée et réglée. Il n'en avait pas, ses parents ne pouvaient pas lui en prêter. Il touchait le RSA et prenait tous les petits boulots qui se présentaient, pourvu qu'ils soient en rapport avec la photo. Je savais déjà tout ça, mais je l'ai écouté avec attention, car la partie se jouait là, je le sentais. Je lui ai dit que l'argent était une chose mobile, une chose qui circulait, qu'aujourd'hui c'était moi qui en avais, demain ce serait lui, ça n'avait aucune importance. Ce raisonnement lui a plu. Il signifiait que je croyais en son talent, que je faisais juste une avance de fond sur ses succès futurs. Et j'ai usé de mes réseaux pour lui trouver du travail, des photos, de monuments, du portrait professionnel. Des mois ont ainsi passé dans un doux bonheur. Nous fûmes heureux comme vous rêvez tous de l'être. Et puis un jour, le mal est arrivé par ma faute, par ma seule faute, parce que je suis folle. Voici comment. J'examinais avec mes étudiants de licence l'influence qu'eut le Tasse sur les écrivains et artistes européens depuis le XVIe siècle. L'enseignement, qui parfois m'avait pesé, m'était maintenant une grande joie. Tout ce que je faisais était comme équilibré aussitôt par la présence de Chris. Nous étudions donc l'histoire de Renaud et Armide, telle que le Tasse la raconte dans La Jérusalem délivrée. Renaud, valeureux chevalier, est fait prisonnier lors de la première croisade par une belle magicienne païenne, Armide. Celle-ci a l'intention de le tuer, ainsi que tous ses compagnons chrétiens, mais elle tombe amoureuse de lui. Afin d'en être aimée en retour, elle lui fait boire un philtre magique qui le place et le maintient sous son emprise amoureuse. Dès lors, le chevalier oublie la mission sacrée. Il s'alanguit dans la vie merveilleuse que lui offre la magicienne. Celle-ci l'a débarrassé de son armure et de son épée, l'a revêtu de somptueux habits. Elle crée pour lui des festins, des jeux, des concerts, lui prodigue 1000 caresses et invente 1000 voluptés. Leur amour se déploie durant de longs mois dans le plaisir et la paresse. Mais les croisés de Godefroy de Bouillon ne se sont pas résignés au sort de leur ami et refusent de l'abandonner à un destin si méprisable. Ils finissent par trouver le moyen d'accéder jusqu'à lui en l'absence d'Armide. Renaud est là, couché sur un lit paré de riches étoffes, entouré de mets raffinés, de carafes au vin liquoreux. Il lui tend un bouclier afin qu'il voie ce qu'il est devenu. Et Renaud, qui ne se contemplait plus que dans le miroir magique tendu par sa belle, découvre soudain son vrai reflet, celui d'un homme alangui, amolli dans les coussins, vêtu comme un galant, désarmé. Ses anciens compagnons n'ont aucun mal à le persuader de reprendre avec eux le chemin de la conquête. Il se lève, récupère ses armes, et s'apprête à les suivre. C'est là que la légende et mon récit, hélas, se rejoignent. Armide, découvrant la décision de Renaud, égorgée de tant d'amour qu'elle ne croit pas que son amant, si épris d'elle depuis des mois, puisse la quitter. La force de leur passion, dont ils se donnent toujours de plus tendres preuves, est désormais si grande qu'aucun sortilège n'est plus nécessaire, pense-t-elle. Dans l'opéra de Lully, ils chantent même en duo un air admirable. J'avais failli pleurer en le faisant écouter à mes étudiants. Non, je perdrais plutôt le jour que d'éteindre ma flamme. Non, rien ne peut changer mon âme. Non, je perdrais plutôt le jour que de me dégager d'un si charmant amour. Armide, donc, sûre de la puissance amoureuse, se jette aux pieds de Renaud, lui avoue les charmes dont elle a usé avec lui, jure de les abandonner. « Je t'aime, lui dit-elle. Je t'ai trahi, je t'ai menti. Mais la seule vérité, c'est que je t'aime. Garde-moi avec toi. Pour l'amour de toi, je suis prête à tout. Je peux même me convertir à ta religion, si tu l'exiges. » Renaud hésite. Il contemple avec amour et tristesse le beau visage de l'enchanteresse, mais il souffre de tant de trahisons. À la fin, le devoir du héros est plus puissant que tous les sentiments. Il s'arrache à la douceur suppliante d'Armide et la quitte à jamais. J'avais raconté cette histoire à mes étudiants et je n'arrivais plus à la sortir de ma tête. Elle m'obsédait. Une question tournait en boucle dans mon esprit. Si je lui avouais mon imposture passée, Chris m'aimerait-il toujours? Serait-il choqué d'avoir été ainsi manipulé, au point de me quitter? En réalité, si je suis tout à fait honnête, ce n'était pas vraiment cette question-là qui me hantait. La vraie, la seule terrébrante interrogation que j'avais était celle-ci. Est-ce que Chris pensait toujours à Claire Antounèche? Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai ressuscité Claire Antounèche. Tout a été soigneusement préparé. Je ne pensais plus qu'à ça, à vérifier l'amour. J'ai d'abord ressorti le portable que j'avais caché dans une boîte à chaussures au fond de mon placard. Je n'avais pas résilié le forfait à 2 €. J'avais oublié de faire la démarche. J'ai rechargé la batterie. J'ai réécouté en tremblant les derniers messages que m'avait laissé Chris des mois plus tôt. Sa voix triste m'a serré le cœur, mais c'était de jalousie, une jalousie immense, ravageuse, folle. Son passé anéantissait ma vie présente. J'ai mis au point mon stratagème. Je sentais bien qu'il aurait fallu renoncer, ne pas jouer avec le danger, mais je ne pouvais plus reculer. L'angoisse avait pris toute la place. L'idée était que Claire Antounèche ressurgisse sous forme d'un ultimatum amoureux. N'ayant pu oublier Chris durant ses mois de silence et d'éloignement, elle avait rompu avec son fiancé et voulait désormais le rencontrer enfin. Lui, vivre avec lui, car elle l'aimait. Elle n'avait plus aucun doute à ce sujet. Elle ignorait où il en était dans sa propre existence. Mais s'il l'aimait toujours, lui aussi, il devait tout quitter sur le champ et la rejoindre le soir même au Café Français. Elle y serait de 21h à 22h, pas davantage. Il ne devait pas chercher à lui parler par téléphone, seulement venir, faire acte de présence, littéralement. S'il ne venait pas, il n'entendrait plus jamais parler d'elle. Voilà le message à la fois tranchant et exalté que Chris allait recevoir de ma part sous forme de SMS émis par mon téléphone secret le soir même, alors que nous nous installerions en terrasse de notre restaurant favori à 2 pas de chez moi. Au début, j'ai seulement envisagé ce test à vide. Si Chris allait au rendez-vous, bien sûr il n'y trouverait pas Claire Antounèche, et il me perdrait, ou je le perdrais, je ne savais plus trop. À moins que je ne lui pardonne. Mais peu à peu, pour que l'expérience mette un comble à mes soupçons jaloux, j'ai imaginé placer en face de lui, au Café Français, la splendide jeune femme brune dont il avait tant contemplé la photographie, ma nièce Katia. Depuis sa tentative de suicide, je ne la voyais presque pas, et toujours en cachette de crise, bien sûr, ne connaissais même pas son existence. Katia, après un long séjour en maison de repos dans le sud-ouest, était venue chercher du travail à Paris. Elle habitait depuis un mois rue de la Roquette, seule et toujours assez déprimée. Je ne savais pas au juste qu'il avait désespéré, au point de lui faire avaler un tube de somnifère, quelque temps après avoir emménagé à Rodez. Une histoire d'amour qui avait mal tourné, sans doute, mais elle n'avait jamais voulu m'en dire davantage, et je n'avais pas insisté. Bref, en proie à mon délire jaloux, je lui ai donné rendez-vous ce soir-là à 21h au Café Français. Dans mes cauchemars réveillés, Chris s'avançait vers elle, assise à une table près du bar. Il s'asseyait en face d'elle, lui prenait les mains, muet, ravi. Ce n'est pas souvent qu'un rêve devient réalité. Puis la scène recommençait ad nauseam, jusqu'à ce que je me secoue pour ne pas hurler de chagrin. Le soir arrive. Je propose à Chris d'aller dîner chez Tony, un restaurant du quartier où nous avons nos habitudes. Il n'y a plus rien dans le frigo. « Tu veux que j'aille chercher des pizzas ?» me dit-il en m'enlaçant, son ventre dans mon dos, sa bouche dans mes cheveux. Je dis que non, qu'il fait beau, qu'on sera bien en terrasse. J'ai préparé sur l'écran du téléphone secret, caché sous les paperasses de mon bureau, le texte du SMS de Claire Antounèche. Je n'ai plus qu'à appuyer sur « Envoyer ». Je pourrais encore ne pas le faire. Je le fais juste avant de claquer la porte et d'appeler l'ascenseur. Nous descendons, nous marchons jusqu'au restaurant. Il me tient par la taille. Nous nous asseyons, nous regardons le menu. Chris ne consulte pas son téléphone. Il n'a peut-être pas entendu le bip du texto, ou bien plus probablement, il savoure ce moment. Il n'attend rien ni personne. Il a l'air détendu. Je n'y tiens plus, tout mon corps tremble à l'intérieur, mon ventre palpite de l'impatience de savoir ce qu'il est vraiment, ce que je suis pour lui, ce que je suis. La machine est enclenchée, la peur ancienne revient, celle de ne pas être l'objet de l'amour. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Voilà ce que j'ai toujours pensé, toujours. Une maxime de La Rochefoucauld me revient à l'esprit. Je l'ai donné en dissertation à mes étudiants. Dans l'amitié, comme dans l'amour, on est souvent plus heureux par les choses qu'on ignore que par celles que l'on sait. Sans doute est-ce vrai, mais désormais il est trop tard pour ignorer. Dans une poignée de secondes, je vais savoir. Quelle heure est-il, dis-je? On a peut-être le temps de se faire un ciné après? Il ne répond pas. Il étudie la carte des vins, un petit sourire aux lèvres. « Tu peux regarder, » dis-je en désignant d'un geste la poche de son jean, « je n'ai plus de batterie. » Sans quitter la carte des yeux, Chris sort son téléphone, l'ouvre comme au ralenti, y jette un coup d'œil, se fige, fronce les sourcils. 20h42. Sa voix s'étrangle légèrement, ou bien est-ce moi qui n'ai plus de souffle? Il lit le texto, puis son regard vacille aussi, ne sait plus où se poser. J'ai mal. « Tu n'irais pas jusqu'au tabac, j'ai envie de fumer, » dis-je, pour échapper à la souffrance que sa vue m'inspire. Qu'il parte, qu'il s'en aille, qu'il m'épargne le spectacle de son indécision. Il se lève comme un automate, bredouille. « Oui, oui, j'y vais. » Pose une main sur mon épaule, sa main si forte, presque rude, qui contraste avec la douceur qu'elle prodigue. J'aperçois dans l'entrebâillement de sa chemise son cou délicat, le creux où j'aime poser mes lèvres. Je voudrais le faire encore avant qu'il parte, mais il s'éloigne déjà. « Je reviens, » dit-il. Le garçon arrive, je commande du rosé. Quand il apporte le pichet, je remplis nos deux verres, je bois le mien à petites gorgées, les yeux fixés sur le sien, je reviens.
Je ne peux pas croire que tu m'aimes, mais je t'en prie, dis-le quand même, dis-le encore, dis-le plus fort. Peut-être qu'au fond, au fond, j'ai tort et que tu m'aimes. Alors dis-le sans t'arrêter, dis-le encore, faut répéter pour que ça rentre. Dis-le encore, je veux l'entendre d'une autre façon, faut me surprendre pour m'aimer. Mais je... non, je ne peux pas croire que tu m'aimes. T'as beau la voir, chanter la voir, crier sur tous les toits, moi non, je ne te crois toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, oui, dis-le-moi, 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 dis-le-moi. Car moi, j'en ai vécu des amours malheureux. Tes paroles aussi belles que mensongères, ces paroles et paroles légendaires. Oh moi, j'en ai vécu des amours miséreux. Alors, prends-en soin. Prends soin du cœur que tu as entre les mains. Et dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi. Dis-le-moi que tu m'aimes, dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ce je t'aime. Alors, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi que tu m'aimes, dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ce je t'aime. Alors, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ce je t'aime. Alors, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ce je t'aime.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Là s'arrête le roman de Claire, de Madame Milcam. En tout cas, le récit écrit d'une traite. Car le cahier se poursuit, vous voyez, chers confrères, mais après plusieurs pages blanches, comme pour marquer l'espace temporel, et avec un autre stylo, une écriture plus saccadée. Il y a beaucoup de ratures, contrairement au premier jet. Certains paragraphes sont rayés, totalement noircis au feutre, D'autres sont de simples notes lisibles. Sans doute Claire a-t-elle eu du mal à décider d'un dénouement. Elle avait tellement été dans l'angle ouvert des possibles, elle avait tellement rêvé, cauchemardé, fantasmé avec son amour, sa jalousie, son désir, ses doutes, qu'il lui était probablement difficile de condescendre à une vraie fin, c'est-à-dire à une seule fin. Dans un scénario de film, remarquez, ça pourrait très bien finir ainsi. Et dans un roman aussi, d'ailleurs. Elle reste assise à la terrasse, son verre de rosé à la main. On coupe le dernier plan, avant qu'elle ne commence à boire l'autre verre, ou bien après, c'est selon. L'attente, le désespoir et le passage du temps se lisent dans le contenu des vers. À moi de choisir le happy end, de le voir revenir du bout de la rue, marcher vers elle, sur le générique de fin, Patti Smith, Because the night belongs to lovers, ou bien cette autre chanson qu'elle adorait, qu'elle me faisait parfois écouter sur son iPod pendant nos séances. One day, baby will be old. Mais je vous lis la fin telle que Claire l'a finalement écrite. Claire ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas trop. L'écriture semble un peu différente. C'est intéressant parce qu'on entend le point de vue de l'homme. C'est Chris qui raconte la fin. Et par rapport à ce qui a suivi, ce déroulement n'est pas dépourvu de sens. Vous allez comprendre pourquoi. Moi, c'est cette fin qui m'a poussée à faire ce que j'ai fait. Alors écoutez, 2 minutes encore. Je ne savais plus quoi faire quand j'ai lu le SMS. Clé m'a demandé d'aller chercher des clopes, ça tombait bien. J'avais besoin de reprendre pied. J'ai marché comme un zombie jusqu'au coin de la rue. Puis j'ai checké Claire sur Facebook. Son mur n'avait pas bougé. Les derniers posts dataient de plusieurs mois. Une photo du Portugal qui semblait sortie d'une agence de tourisme, trop naze et c'était tout. J'ai relu à la va-vite quelques-uns de nos anciens échanges en MP. J'avais les jambes qui tremblaient. Ça m'a surtout fait quelque chose de revoir sa photo, cette beauté simple et lumineuse, ce sourire aux lèvres charnues, aux dents parfaites, ses longs cheveux bruns aux reflets soyeux et ses seins ronds qu'on devinait sous le pull sage. Elle aurait pu être modèle. Genre de fille dont tous les mecs rêvent. La parfaite trophy girl. Le tabac était fermé. Je pouvais aller à celui de la brasserie Georges, mais ça faisait loin. Clé allait m'attendre. Alors je suis remontée à l'appart. C'était bien le diable s'il n'y avait pas une camelle qui traînait par là. J'en ai trouvé un vieux paquet dans le vide-poche de l'entrée. Je me suis assis 2 minutes pour réfléchir. Qu'est-ce que j'allais répondre à Claire? L'envoyer bouler par SMS, c'était pas très classe. Mais après tout, son comeback mélodramatique, c'était pas top non plus. Qu'est-ce qu'elle croyait? Que je m'étais pétrifiée en statue d'éternel amant, alors qu'on ne s'était même jamais rencontré? Tu rêves, ma grande. Je ne savais pas quoi lui répondre. « Sorry, Claire, je vis avec quelqu'un, elle s'appelle Claire aussi. » Ou juste « Désolée, je ne suis pas à Paris. » Ou simplement « Welcome in France, bonne route, Claire, bisous. » Ou rien, nada, ne pas répondre. Laisse béton. En même temps que je réfléchissais, affalée sur le canapé du salon, les yeux fixés sur les petites pantoufles écossaises de clé qui traînaient sous la table, comme d'hab, je repensais à notre bizarre histoire d'amour, à Claire et à moi. Elle devait être un peu folle pour poser des ultimatums de ce genre sans me connaître. Mais j'aimais ça. J'étais bien obligée de me l'avouer. Cette impulsion, cette façon d'y aller à l'instinct, pour vaincre sa pudeur, pour brûler les étapes, enfin, c'était barré, irraisonné. Terriblement féminin, quoi. Loin du gentil train-train de ma vie, si ennuyeux parfois. Je ne pouvais pas finir ainsi sur un silence casanier. Il fallait que je lui parle, que je lui explique. Elle ne voulait pas que je lui téléphone, elle voulait que je vienne. Mais moi, je n'étais pas obligée d'obéir. Je pouvais jouer comme je l'entendais. Bon, je courais un petit risque d'être réenvoûtée par sa voix, car je me souvenais de l'emprise qu'elle avait sur moi dans le temps. Dans le temps, c'était si loin déjà. Clé avait pris toute la place, tout de suite, et son amour avait gagné le mien en tout cas. J'avais la belle vie avec elle. Pourtant, je ne pouvais me résoudre à la rejoindre au restaurant. Fallait que je parle à Claire avant. J'ai regardé mon téléphone une minute encore, béant comme un imbécile. Je me concentrais sur ce que j'allais lui dire ou sur le message que je lui laisserais si, comme je le pensais, comme je l'espérais, elle ne décrochait pas. Et finalement, j'ai fait son numéro. La sonnerie a retenti une fois, deux fois, trois fois. Et à la fin de la quatrième, j'ai raccroché, le cœur battant, sans laisser de message, après l'avoir robotisé. Ce n'était pas la peur qui m'en avait empêchée, mais l'évidence incompréhensible au fil des sonneries, qu'elle retentissait non pas seulement dans le téléphone, mais aussi exactement de la même façon et au même moment dans l'appartement. J'étais tellement abasourdie par la coïncidence que je refis aussitôt le numéro de Claire. Vérification indéniable, ça sonnait. Un téléphone sonnait dans la chambre de Clé. Me guidant à l'oreille, j'eus vite fait de tomber sur un petit appareil bon marché, jamais vu entre les mains de Clé, qui ne se servait que de son iPhone. J'ouvris le clapet avec le sentiment qu'une catastrophe était en train de se produire. Ce simple geste allait m'exploser à la gueule, j'en étais sûre. Je venais de dégoupiller la vérité. Les SMS que j'avais échangés avec Claire Antounèche, les photos que je lui avais envoyées, tout était là et rien d'autre. Je pianotais comme un dingue sur le minuscule clavier, sans qu'aucune explication vraisemblable parvienne à mon cerveau torpillé. Clé avait-elle piraté mon propre téléphone, copié mes textos? Elle en qui j'avais la plus entière confiance? Mais non. Non. Puisque le numéro, le fucking numéro de ce putain de téléphone était celui de Claire Antounèche. Et que dans le répertoire que j'ouvrais maintenant, il n'y avait qu'un seul contact, moi. Qu'un seul numéro, le mien. J'appuyais sur la touche de la messagerie et restais suspendue dans l'espace de la chambre comme une chaussette dépareillée sur un fil. Ma propre voix, ma voix de pauvre con, tout enfarinée, mielleuse, attristée, me susurrait des niaiseries à l'oreille, des projets, des regrets, des serments. J'avais l'air débile et pas que l'air. Je restais prostrée 5 bonnes minutes, la tête en vrac, avant de comprendre vaguement l'arnaque. C'était tellement tordu que je n'arrivais pas à faire le lien avec Clé, si droite, si digne. À ce sentiment de stupéfaction, joint à un arrière-goût d'humiliation, se mêlait une certaine admiration. Les femmes m'apparaissaient toutes soudain comme une espèce supérieure, totalement inconnaissable, grandiose en un sens, et en un autre complètement à la masse. Comment? Pourquoi tout ce cirque? La jalousie morbide des femmes. Ça n'expliquait pas tout. Loin de là, mais ça venait colmater une interrogation douloureuse sur le personnage que j'avais joué à mon insu dans cette pièce obscure et pendant tout ce temps. La jalousie, c'est de l'amour. L'amour est une explication qui soulage un peu. Passé la stupeur première, une autre question s'imposa. Quelle devait être la suite du traquenard? N'étant pas censé découvrir l'embrouille, qu'étais-je supposé faire? Revenir m'asseoir à sa table comme si de rien n'était et boire un verre de rosé avec elle, son triomphe? Ou bien me rendre au rendez-vous de Claire Antounèche à la Bastille et quoi? Clé avait sans doute prévu de surgir peu après et de jouir de mon ébahissement, de ma honte, avant de me reprocher mon infidélité, fût-elle virtuelle, ou de m'agonir d'injures. J'étais partagée entre la rage et le rire. Mais j'étais surtout obligée de m'avouer une chose. Le sourire de Clé qui s'affichait sur la photo de nous, accrochée au-dessus de son bureau, ne me consolait pas de l'évidence qui me trouait maintenant la conscience. Claire Antounèche n'existait pas. Cette fée n'était qu'un fake, mon rêve, un avatar. J'avais aimé du vent. La sensation physique, organique de la manipulation donna envie d'aller jusqu'au bout. Au moins, j'allais prolonger un peu l'embrouille et la faire souffrir pour de bon, cette espèce de monstre qui jouait à se faire peur après s'être joué de moi. J'étais perdue. Je ne savais pas si je l'admirais ou si je la méprisais, si sa folie me ravissait ou me révoltait. Je me levais d'un bond, attrapais un sac de voyage, fourrais dedans quelques affaires à moi et tout mon matériel photo, laissant ma chambre ostensiblement vide. Vrai départ ou mise en scène, je l'ignorais moi-même. Il n'était pas loin de 9 heures. Avant de sortir, je pris soin d'effacer sur son portable la trace de mes 2 appels. Elle était en train de boire du rosé à la terrasse de chez Tony, assise de 3/4. Elle ne m'offrait qu'un profil fuyant qui me parut triste. La carafe était presque vide. Je continuai mon chemin sans me montrer et courus presque jusqu'au lieu du rendez-vous. Je l'aimais toujours, mais qui ? À présent, je suis assis au café français. Je bois un pastis, je regarde la place, les voitures, les bus. Il faudrait prendre une photo pour immortaliser l'instant mortel. Et si Clé ne venait pas ? Qu'est-ce que je fais là avec mon sac de voyage ? Si Clé ne vient pas, si la rupture est consommée ? Est-ce que ce soir je coucherai chez mes parents à Sevran ? Et demain matin je boirai le café avec ma mère qui me demandera des yeux pourquoi je rate toujours tout ? Non, non et non, je veux qu'elle vienne. Je veux lui faire payer ce jeu pervers. Elle m'aime, je vais jouer la plus grande froideur avant de la prendre dans mes bras peut-être. Ça dépendra de son sourire. Je ne suis pas son esclave non plus. Des souvenirs affluent à mon esprit. Le passé défile comme si je venais d'avoir un accident. Comment a-t-elle pu ourdir une manigance aussi tordue ? Inventer un CV, inventer Gilles, inventer le Portugal, inventer l'impossible. Pourquoi a-t-il fallu que... C'est alors que je l'ai vue, elle. Ce fut comme une apparition. J'ai tourné la tête en quête du garçon qu'il me remette ça, et elle était là, tout en noir, ses beaux cheveux bruns tirés en arrière, l'air triste. Mais c'est elle, je la reconnais. Mon cœur galope, je n'y comprends rien, mais ce qui s'appelle rien. De loin, nos yeux se rencontrent. Elle me regarde, puis détourne la tête simplement, sans expression particulière. Ses yeux se posent ailleurs. Tout s'embrouille. Je ne suis pas fait pour tant d'émotions, pour tant d'énigmes. Ma poitrine est un puzzle menacé d'explosion. Alors je me suis levée. J'ai marché jusqu'à sa table. J'ai posé mon sac de voyage dessus. Claire, et je dis presque brutalement, elle a relevé la tête, sa bouche est légèrement entrouverte, sa peau est une splendeur, ses yeux étonnés hésitent à sourire, elle lève les sourcils d'une façon adorable. « Je m'appelle Katia », dit-elle. C'était « Celle que vous croyez », roman de Camille Laurence. Ce roman, cette liaison dangereuse nouée sur la toile n'est pas terminée. Il reste presque 80 pages et Camille Laurence continue de nous manipuler tout en assénant quelques vérités bien senties dans son jeu de miroir facétieux. Lors de la pause musicale, nous avons écouté « Dis-moi que tu m'aimes » de Zao de Sagazan. Cette émission a été produite par Frédéric Guillon. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h02 pour un nouveau texte et je vous souhaite une agréable soirée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.